Salut, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui débute et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, l'association La Chance qui recrute sa nouvelle promotion d'aspirant journaliste. Deux interviews en studio pour comprendre tout d'abord la concertation lancée par le département pour plus de mixité sociale dans les collèges, puis pour présenter le contrat d'engagement jeune qui fête ses 1 an. Il y aura de la musique dont une nouveauté et enfin une recommandation, c'est d'aller faire un tour au bus du cœur des femmes à Rennes en fin de semaine. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Comme chaque jour, on commence avec l'info que j'ai retenue pour vous. Là, c'est le dispositif La Chance qui cherche les candidats de sa nouvelle promotion à Rennes. Depuis 2007, cette association elle a une mission, aider les étudiants issus de milieux modestes à intégrer les écoles de journalisme. Et ça, à travers une formation gratuite pour environ 80 boursiers chaque année dans Rennes, mais aussi 6 autres villes de France. À Rennes, le dispositif il existe depuis 2018. Concrètement, il s'agit d'une formation de 175 à 220 heures de cours pour préparer donc les concours d'entrée aux écoles. Ça se passe durant une année à partir de l'automne, à chaque fois les samedis après-midi, et le tout en compagnie de journalistes bénévoles. Des aides financières sont aussi possibles pour passer les concours, inscription, transport ou encore logement. Un chiffre qui montre que l'idée fonctionne. 76% des anciens étudiants passés par l'association La Chance sont aujourd'hui journalistes pour de bon. Et c'est aujourd'hui donc le moment du recrutement de la promotion 2023-2024 avec un public qui est ciblé, les jeunes éloignés de ce secteur du journalisme, issus des quartiers prioritaires mais aussi du milieu rural. Pour candidater, rendez-vous sur le site lachance.media. Il faut être boursier et avoir au minimum un diplôme Bac plus 2. La date limite pour tenter sa chance, c'est le 9 septembre. Après la sélection sur dossier, un entretien attend les candidats, cette fois au mois d'octobre. Extrait de l'échange alors qui date de 2020 avec le référent rennais de La Chance cette année-là, Baptiste Julien Blandet. Et puis après ça, ce sera l'heure d'une première interview.
Ce qui motive, c'est qu'aujourd'hui, les médias souffrent d'un manque de diversité, parce que du coup, il y a certaines réalités que les journalistes peuvent oublier, et qu'effectivement, les écoles de journalisme, de par leur concours et de par le processus de sélection, bien en fait, ce sont souvent des étudiants qui ont des parents qui ont les moyens de leur payer l'école, de leur payer les concours, et qui ont aussi les moyens et l'aisance financière suffisante pour pouvoir se concentrer tout au long de l'année à la préparation de ces concours. Donc La Chance, elle existe pour aider effectivement les étudiants boursiers qui sont dans des quartiers en zone prioritaire ou dans des quartiers ruraux, dans des zones rurales, qui vont avoir peu ou pas accès en fait aux us et coutumes de la profession et qui vont se retrouver dans des situations financières ou matérielles ou sociales qui vont pas être optimales et de sorte que travailler tout seul, c'est un peu peine perdue pour réussir le concours.
Jeanne Larue, bonjour.
Bonjour.
Jeanne Larue, vous êtes vice-présidente au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, déléguée aux questions d'éducation. Et le conseil départemental, il se trouve qu'il vient de lancer une concertation sur la mixité dans les collèges rennais, mixité sociale. Ça, c'était fin mai. Je consacrerai plusieurs rencontres à ce sujet de la mixité sociale dans les écoles en lien avec le sujet de la carte scolaire. Le premier échange, c'est celui qui suit. On commence par dire que les écoles, selon le degré, elles dépendent de différentes institutions. Pour le conseil départemental, son champ d'action, c'est le collège. Ça implique quoi comme action ?
Alors, pour les collèges, nous construisons les collèges, nous les rénovons, nous avons notamment beaucoup en ce moment d'opérations de rénovation énergétique, de remise à niveau esthétique des collèges. Nous sommes les employeurs des agents des collèges, qui sont les personnes qui font la cuisine, qui nettoient les collèges, qui sont au quotidien au sein de la communauté éducative, proche des élèves. Nous finançons également des actions éducatives dans les collèges, donc tout ce qui concerne l'ouverture culturelle, Nous finançons des voyages à l'étranger. Nous sommes également partenaires d'Erasmus+ pour de nombreux collèges. Donc c'est le département qui va dispatcher les sommes et animer cette ouverture sur l'étranger.
Ce sont en tout 62 collèges publics qui sont financés et accompagnés par le département d'Ille-et-Vilaine. Ce que certains auditeurs savent peut-être moins, c'est qu'il y a aussi un soutien aux collèges privés. C'est obligatoire, c'est dans la loi, en partie.
Oui, la loi, effectivement... nous impose de financer un certain nombre de choses pour les collèges privés, notamment des crédits de fonctionnement qui leur permettent aussi de faire face à leurs charges de personnel, le personnel des cantines. Et puis nous avons aussi des contributions volontaires qui, elles, sont facultatives, qui nous sont dictées par la loi Falloux. Donc nous subventionnons une partie des investissements des collèges privés. Et également pour les collégiens et les collégiennes du privé, une partie d'action éducative, donc d'ouverture culturelle.
Avant de parler de ce qui pose problème sur la mixité sociale, il faut qu'on rappelle ce qu'est la carte scolaire. Pour faire simple, notre lieu de vie détermine l'école, le collège, puis le lycée où on va étudier, avec parfois des dérogations pour certains.
Mais tout à fait, c'est tout à fait ça. Et donc la compétence du département, c'est celle de décider à partir de votre adresse dans quel collège vous allez être affecté. Donc notre travail, c'est pas seulement un travail sur la mixité sociale, c'est un travail global sur l'équilibre des effectifs. Mais effectivement, cet objectif de mixité sociale est un objectif que nous poursuivons très fortement cette fois-ci.
La carte scolaire, elle a été lancée au début des années 60. Au départ, l'objectif, c'était pas celui de favoriser la mixité sociale, mais surtout un objectif très pragmatique d'organiser l'offre éducative sur le territoire et puis de définir aussi l'aire de recrutement de chaque établissement. Pour ce qui est du département d'Ille-et-Vilaine, la carte scolaire, c'est un outil qui bouge pas très souvent. Là, on parle d'un moment où ça va bouger, mais c'est complexe, quoi. Donc ça bouge pas.
Alors ça demande, oui, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'études préalables. La dernière fois que nous avons bougé la carte scolaire à Rennes, parce que nous le faisons quand même régulièrement ailleurs dans le département, hein. Mais la dernière fois que nous l'avons fait à Rennes, c'était en 2016, hein, pour une application en 2017.
L'idée, le plus souvent, c'est d'envoyer les collégiens dans l'établissement qui est le plus près de leur lieu de vie. Quand on sait que la ville, justement, est construite avec des quartiers où on a, en quelque sorte, concentré des populations défavorisées, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus forcément systématique de penser comme ça, d'envoyer les élèves au plus près.
Ben, aujourd'hui, à cause de ce que vous décrivez, la ségrégation socio-spatiale qu'on connaît dans beaucoup de grandes métropoles françaises, on est obligé de mettre en avant d'autres critères que simplement celui de la proximité si on veut avoir une population équilibrée dans les collèges.
On arrive au constat en s'appuyant sur l'IPS, l'indice de position sociale. C'est un indicateur qui est rendu public depuis pas très longtemps, depuis 2022, par l'Éducation nationale. L'indicateur, il s'appuie sur le profil du ou des parents. Et plus il est élevé, plus l'enfant vit dans un milieu socialement favorisé.
Tout à fait.
À l'échelle de la Bretagne, pour 2022, on se retrouve avec 7 des 10 collèges bretons, avec la moyenne d'IPS la plus élevée, qui sont dans le privé. Et puis, les 10 établissements avec l'indicateur le plus bas, eh bien, ils sont tous dans le public. Est-ce que le constat est le même à l'échelle du département d'Ille-et-Vilaine ?
Alors, en Ille-et-Vilaine, 8 des 10 collèges les plus favorisés sont des établissements privés et 8 des 10 établissements les moins favorisés sont des établissements publics, effectivement.
Donc le constat est à peu près le même.
Tout à fait.
Si on tire un peu sur le fil, on peut là aussi parler d'une forme de ségrégation sociale. Alors c'est pas du tout propre ni à l'Ille-et-Vilaine ni à la Bretagne, puisque la France est connue pour être un peu un mauvais élève à l'échelle de l'OCDE sur le sujet de l'école comme lieu de reproduction des inégalités, en tout cas à l'échelle de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique. Peut-être dire en quoi c'est un problème, on pourrait se dire bon.
Alors, il y a effectivement ce qu'on peut appeler une forme de séparatisme scolaire des riches. Qu'est-ce que ça pose comme problème ? On est dans une société qui est de plus en plus atomisée, qui est de plus en plus violente, qui est de plus en plus séparatiste. Et donc, l'idée de la mixité sociale, c'est de dire d'abord la mixité sociale et le fait de connaître l'autre. C'est favorable à l'apprentissage, ça développe des compétences psychosociales importantes et c'est également une façon, je dirais, de faire en sorte que les élèves n'aient pas une pression insupportable, qu'on ne soit pas dans des établissements où seule la compétition compte.
On peut imaginer, je pense, assez facilement des leviers pour améliorer la mixité sociale dans le privé. Ce sont les directeurs d'établissement qui le disent, notamment avec des facilitations financières pour des familles plus défavorisées. Par exemple, ça, je pense qu'on peut l'imaginer. Là où c'est plus complexe, c'est dans le public. On fait quoi pour garder les familles les plus aisées ?
Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on rassure les parents avant tout, c'est-à-dire que lorsque nous allons peut-être déplacer certains quartiers vers des lycées de centre-ville ou l'inverse, il va falloir que ça s'accompagne de moyens. Si je prends l'exemple qui a été l'expérience qui a été menée à Toulouse, où il y a une fermeture de collège de bas des tours et un déplacement des élèves vers le centre-ville.
On appelle ça le busing.
Le busing, si on veut, oui, effectivement. Eh bien, ça s'est accompagné de moyens très importants mis à la disposition des enseignants et des établissements par l'académie, c'est-à-dire des maîtres de mixité sociale. Un travail très important qui a été fait entre le premier degré et le collège, les collèges d'accueil, mais également les collèges qui allaient fermer. Et donc, ça, c'est de nature à rassurer les parents, parce que ce qu'on travaille avant tout dans ces expériences-là, c'est évidemment le climat scolaire, ce qui permet de favoriser l'épanouissement et l'apprentissage. Un climat scolaire apaisé, avec des gens différents, de toutes sortes, ça favorise les apprentissages.
Il faut donc démonter certaines idées reçues sur les collèges publics. Les collèges sont dans un bon état. Mais il reste quelques chiffres, je pense notamment au brevet. Certains parents vont vous dire oui, mais les résultats du brevet sont meilleurs dans le privé que dans le public, ça c'est vrai là-dessus.
Alors là-dessus, je vais citer une image de Pierre Merle, qui est un sociologue de l'éducation rennais, et qui me disait hier soir que c'est comme si des piscines refusaient les non-nageurs. D'accord. Donc les résultats, ce sont des statistiques, mais ça ne dit pas en fait les efforts qui sont poursuivis par l'établissement pour mener chacun au sommet de ses potentialités, au sommet de son potentiel. Donc le public, effectivement, peut-être que les résultats du brevet sont moins intéressants dans un établissement ou dans l'autre, mais ce qui compte, c'est de voir quelle progression ils ont permis aux élèves qui leur sont confiés, et dans le public, tout le monde est le bienvenu.
Le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine pour améliorer la mixité sociale dans les collèges a déjà fait des choses. À Toulouse, il y a le busing. Ici, en Ille-et-Vilaine, il n'y a pas de terme anglais, mais il y a eu le choix de fait dans la précédente carte scolaire d'envoyer des élèves des quartiers de Villejean vers des collèges de centre-ville. Et inversement, ça a marché que dans un sens. C'est là où on voit les limites de cette politique.
Alors ça, c'était une possibilité qui nous était offerte à cette époque, en 2016 à peu près, de créer des secteurs multicollèges où on imaginait qu'en rassemblant trois collèges, les gens allaient pouvoir se mélanger dans leur secteur d'un collège à l'autre. Ça a extrêmement bien marché pour certains élèves de Villejean qui se sont emparés de cette possibilité pour aller un petit peu plus loin et être accueillis dans les lycées de centre-ville, Anne de Bretagne et Zola. Et dans l'autre sens, ça marche moins bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'aune de cette expérience, on va avoir des techniques sans doute un peu différentes.
Là, je pense à ça, on parle un peu d'un milieu urbain où finalement les distances entre deux collèges sont facilement réalisables en métro. Quand on va de Villejean jusqu'au centre-ville, c'est une dizaine de minutes en métro, c'est pas une distance trop longue à parcourir. Quand on sort du territoire urbain en Ille-et-Vilaine dans un territoire plus rural, j'imagine que là les contraintes sont plus grandes à lever.
Alors Aujourd'hui, on fait une refonte de la carte scolaire de Rennes et sa première couronne. Les problématiques de mixité sont très différentes dans le milieu rural. Notamment, les collèges privés sont beaucoup plus mixtes dans le milieu rural. Donc, on n'a pas les mêmes problématiques. Aujourd'hui, on se concentre donc sur Rennes et sa première couronne, je l'ai dit. Il y a effectivement une énorme facilité qui nous est donnée par ce merveilleux métro et ces deux lignes de métro. Pour autant, il ne faut pas ne pas prendre en compte les réticences des parents, parce qu'on parle d'élèves de 6e. Et donc, si jamais on devait prendre des décisions comme ça, je pense que ça devrait également s'accompagner dans les transports de facilitation pour que les parents ne soient pas inquiets de laisser leurs enfants aller trop loin.
Le prochain chantier du conseil départemental, c'est cette refonte de la carte scolaire. Vous avez lancé une consultation auprès de parents d'enfants qui vont du CP jusqu'au CM. Il faut dire pourquoi ce public. Vous pensez le projet en fait en amont du collège ?
C'est ça. En fait, les décisions qu'on va prendre vont commencer à s'appliquer à la rentrée 2024. Donc, nous avons invité les parents des écoles primaires de Rennes, du CP au CM1, à venir s'exprimer dans le cadre d'une concertation, dont la première partie a eu lieu hier. Ils ont pu rencontrer les chercheurs, les sociologues de l'éducation avec lesquels on a pu travailler. Ils ont pu poser leurs questions, ils ont posé énormément de questions très intéressantes, ils sont intéressés par le sujet parce que ça concerne leur progéniture, évidemment c'est ce qu'on a de plus précieux, mais aussi je pense que le sentiment que j'ai eu hier soir, c'est qu'ils comprenaient aussi la dimension sociale et sociétale de ce sujet, donc j'espère que les ateliers de secteur qui vont avoir lieu tout au long du mois de juin vont nous permettre de préciser tout ça.
Puisque ce ne sont pas juste les écoliers de Rennes qui sont concernés, mais donc Rennes, Champy, Saint-Grégoire, Thorigné-Fouillard et Vezin-le-Coquet. La première rencontre a eu lieu mardi 5 juin. Il y avait le département, évidemment, des parents, aussi des chercheurs, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On est accompagné par Choukri Benayed, qui est professeur à Limoges, qui est un grand spécialiste de la question, qui vient de sortir un livre d'ailleurs là-dessus, par Étienne Boutzbar, qui travaille au CNESCO, donc le Centre National d'études des systèmes scolaires, qui nous suivent depuis plus d'un an. Et puis Pierre Merle aussi, qui est un sociologue de l'éducation breton, rennais, nous a fait l'amitié aussi de participer à cette réunion.
La nouvelle carte scolaire, quand elle aura passé cette étape de la consultation, elle devra encore être validée par l'éducation nationale, hein, c'est ça, avant d'être adoptée en conseil départemental ?
Alors, elle n'est pas validée. La compétence juridique, c'est celle du département. En revanche, évidemment, on a besoin de la ville, on a besoin des collectivités, on a besoin de l'académie. Donc, c'est un dialogue qui est permanent depuis un an. On ne fait que des allers-retours pour ajuster et voir un petit peu ce qu'on va pouvoir produire comme nouvelle carte. Évidemment, si on a besoin de moyens suite aux gestes qu'on va faire, mais l'académie sera en première ligne, c'est elle qui les attribue. Donc, on fait tout en concertation avec elle. Mais c'est bien nous qui prenons la décision.
Est-ce qu'on peut donner un exemple de changement concret là, qui pourrait concerner ces futurs collégiens de Rennes, Champy, Saint-Grégoire, Thorigné-Fouillard ou encore Vezin-le-Coquet ? En quoi ça peut changer des choses et avoir des effets sur la mixité sociale ?
Les hypothèses sur lesquelles on travaille, c'est l'ouverture ou la fermeture d'un collège, le rattachement d'écoles entières à un collège, ce qui n'est pas le cas actuellement, et ce qui nous permettrait peut-être de prendre une école un peu moins favorisée pour la diriger vers un collège un peu plus favorisé. Voilà, on a tout un tas de techniques, notamment il y a également celle de la montée alternée qui est un petit peu plus compliquée à expliquer, mais qui permet de mélanger en fait la population de deux collèges en rassemblant les deux collèges dans un seul secteur. Voilà en gros les leviers que nous avons.
Là, vous venez de lancer un premier atelier avec des parents. C'est une appréhension, la façon dont ça va être perçu, reçu par les parents d'élèves ?
On a besoin de l'adhésion des parents d'élèves. Parce qu'on ne peut pas faire les choses contre les gens, contre leur gré. On ne peut pas leur parler d'un grand projet de société. C'est eux, la société. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette concertation extrêmement forte et j'ai annoncé hier soir d'ailleurs que s'il y avait des parents qui n'avaient pas pu être touchés par notre invitation, on allait faire des réunions supplémentaires, notamment je pense aux parents allophones, je pense à toute une partie de la population qui est écartée un peu de ces concertations-là de manière naturelle. Donc on a besoin de l'adhésion des parents et c'est ça qu'on recherche à travers cette concertation.
Au-delà de l'opposition, c'est peut-être justement de réussir à leur dire que c'est un sujet important, c'est ça le défi.
C'est ça, c'est pas, en fait, c'est pas contrer l'opposition des parents, c'est vraiment emporter l'adhésion des parents sur ce projet-là.
Je vous représente, Jeanne Larue, vous êtes vice-présidente au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et déléguée à l'éducation. Conseil départemental qui vient donc de lancer une concertation sur la mixité sociale dans les collèges. C'était fin mai, on suivra ce projet qui devrait arriver donc dans les collèges du département à la rentrée 2024. Pour plus d'infos, il y a toujours le site internet ille-et-vilaine.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Dernière info avec laquelle je laisse les auditeurs, la signature prochaine d'un contrat donc entre le département et les collèges privés pour conditionner le versement des subventions sur la partie facultative de ces aides à des objectifs de mixité sociale, une initiative intelligente, je dirais. Automatic City avec le morceau Move Your Hand, une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par notre programmateur Yann Barbotin et à retrouver sur un album sorti fin mai sur le label Vita. Cet album, il s'appelle Hum Drum. C'est en fait le nom de la boîte à rythme un peu fictive utilisée par ce groupe Automatic City et qui donne donc son nom au quatrième album de cette formation lyonnaise, un album résolument 70s. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être en ligne sur notre formidable site canalb.fr. On poursuit cette émission d'info locale avec une seconde interview. Jessica Tilly et Corentin Kless, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente. Jessica Tilly, vous êtes conseillère sur le dispositif dont on va parler, le contrat d'engagement jeune. Vous travaillez chez Pôle emploi sur le secteur Rennes-Sud. Et Corentin Kless, vous êtes l'un des bénéficiaires de ce contrat d'engagement jeune. On commence par dire ce que c'est. Un dispositif assez récent, puisqu'il vient de fêter ses 1 an et qui est en fait venu en remplacer un autre qui existait avant.
Exactement. Ce qui remplace la garantie jeune, du coup, qui était mis en place par la mission local. Et donc le CEJE, donc le contrat d'engagement jeune, c'est un accompagnement spécifique qui s'adresse essentiellement aux jeunes de 16 à 25 ans ou 29 ans révolus lorsqu'ils disposent d'une reconnaissance travailleur handicapé comme Corentin. Donc c'est destiné aux jeunes qui présentent des difficultés d'accès à l'emploi durable, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas nécessairement de formation, qui n'ont pas de diplôme ou pas d'expérience professionnelle.
Ce dispositif, il a été lancé en juillet, en tout cas annoncé en juillet 2020 dans le cadre du plan Un jeune, une solution. C'est pour ça qu'on peut retrouver plus d'infos sur le site unjeuneunesolution.gouv.fr. Qu'est-ce qui change par rapport à la garantie jeune? C'est justement que Pôle emploi se saisit de ce dispositif. Il y a peut-être aussi des choses qui bougent d'un dispositif à l'autre.
Alors, la garantie jeune, c'était mis en place et exercé essentiellement par la mission locale. Le contrat d'engagement jeune, c'est mis en place par Pôle emploi et les missions locales. Donc, les deux structures, du coup, le proposent cet accompagnement. Ce qui change, c'est peut-être le fait que ça soit un accompagnement intensif, puisqu'on est sur 15-20 heures d'accompagnement par semaine. Alors, 15-20 heures, ça peut sembler beaucoup, mais il ne faut pas en avoir peur, hein, parce que sur ces 15-20 heures, sont comptabilisées toutes les démarches de recherche d'emploi ou de construction de projet que le jeune peut mettre en place. Donc dans ces 15-20 heures, ça peut être par exemple des recherches d'informations sur internet, travailler sur son CV, passer des entretiens d'embauche, participer à des prestations, des ateliers, à des job dating, des forums, enfin voilà, tout un panel de services en fait qui est pris en compte et qui est notifié dans le parcours.
Sur les conditions, vous les avez déjà évoquées, donc il faut avoir entre 16 et 25 ans ou jusqu'à 29 ans si on est travailleur handicapé. Il ne faut être ni étudiant ni en formation au moment de la signature du contrat d'engagement jeune. Et puis donc rencontrer des difficultés d'accès à l'emploi depuis un moment, ça se mesure comment? Quel est le profil donc sur cette question-là?
Alors c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va être confronté à des jeunes qui sortent de l'école ou voilà, qui n'ont pas nécessairement d'appétence pour l'école, qui n'ont pas obtenu de diplôme ou qui n'ont pas de formation qui leur permettent aujourd'hui d'accéder à un emploi, qui ont aussi potentiellement des freins périphériques. On est sur l'absence de permis de conduire aussi, qui ont pour certains des soucis familiaux, qui n'ont pas forcément une réelle valeur du travail. Après, il y a la mission locale aussi qui propose ce service-là, donc qui va plus les accompagner sur tous ces freins périphériques. Nous, on va être essentiellement sur la recherche d'emploi et de construction de projets.
Pôle emploi dépend de l'État, les missions locales, c'est l'État et les collectivités territoriales, je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Le contrat d'engagement jeune, il dure, alors ça dépend des personnes, mais entre 6 jusqu'à 12 mois d'accompagnement sur un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé. Vous avez donné quelques exemples, mais de différentes activités. Quelle partie de l'accompagnement se passe en entreprise et puis un peu dans quel type de secteur ?
Alors, ils ont la possibilité, effectivement, quand, par exemple, ils n'ont aucune connaissance des secteurs qui recrutent, on peut leur proposer, et d'ailleurs c'est valable pour tout demandeur d'emploi, hein, pas essentiellement qu'aux jeunes, d'effectuer des immersions professionnelles, donc d'aller dans les entreprises faire de l'observation, en fait, voilà, pour prendre des renseignements, pour s'informer, savoir comment ça se passe, est-ce que ce secteur-là peut leur convenir ou pas, voilà. Donc ces immersions-là, elles sont possibles pour tout employeur et tout demandeur d'emploi.
Et alors, si le jeune a déjà un projet, quel qu'il soit, le conseiller, il suit ce projet-là ou parfois on réoriente si on est sur des secteurs professionnels où il y a peu d'offres d'emploi, notamment ?
Ça dépend. On a des jeunes qui ont déjà un parcours plus ou moins réfléchi. Il y en a d'autres qui sont absolument perdus, qui ne savent pas du tout vers où aller, comment procéder, etc. Donc, il y a plusieurs étapes qu'on doit d'abord passer avant d'accéder, que ce soit une immersion, une formation ou une reprise d'emploi. Tout ça, c'est voilà, un travail de co-construction qu'on fait ensemble, hein, entre le demandeur d'emploi et le conseiller. Et puis aussi les prestataires, les partenaires. Enfin voilà, on travaille vraiment. C'est vraiment un travail de co-construction, en fait, entre nous, quoi.
Les parties de découverte du monde de l'entreprise, elles sont vraiment proposées à la carte selon la personne. Pour donner un exemple, le jour du point presse, à l'occasion donc des 1 an de ce contrat d'engagement jeune, le rendez-vous était donné chez un fabricant de prothèses tout près de Rennes, qui s'appelle Orthofiga, donc qui est implanté à Verne-sur-Sèche, une entreprise qui accueille des bénéficiaires du contrat d'engagement jeune. L'accompagnement, il se passe donc avec un conseiller de chez Pôle emploi ou des missions locales et un jeune accompagné. Ça se passe sous forme de binôme. Il y a vraiment un accompagnement sur la durée. C'est la même personne qui accompagne le jeune tout au long des 6 à 12 mois.
C'est l'avantage, en fait, qu'il y a aussi dans cet accompagnement, c'est qu'ils ont toujours le même interlocuteur. Et on a une proximité, en fait, avec eux, puisqu'ils disposent, quand ils signent ce contrat, hein, parce qu'on est bien sur un contrat, donc il y a quand même un engagement, hein, qui est pris, ils disposent du coup nous, en tant que conseiller, on est disponible du coup pour eux, et ils doivent télécharger, en fait, une application qui nous permet, en fait, de communiquer sur une messagerie instantanée, en fait, au même titre que WhatsApp, par exemple. Donc ça facilite grandement, en tout cas, la communication. Ça évite, voilà, d'attendre pour avoir un rendez-vous, s'il y a des urgences, etc., on communique tout de suite. Donc, c'est vraiment le gros plus, en tout cas, moi, je trouve, du contrat d'engagement jeune.
Et donc, vous, Jessica Tilly, vous avez accompagné Corentin Claes, qui est avec nous en studio. Corentin, vous avez donc bénéficié, vous bénéficiez encore de ce contrat d'engagement jeune, puisqu'il est en cours. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter en quelques mots ? Qui êtes-vous ?
Alors, je m'appelle Corentin Claes, j'ai 28 ans, je suis né à Lagny-sur-Marne, je suis diplômé d'une licence pro en contrôle de gestion et informatique décisionnelle. Donc, je suis bénéficiaire du contrat d'engagement jeune depuis novembre 2022 avec Jessica Tilly. J'ai participé, dans le cadre de ce contrat d'engagement jeune, à de nombreux handicafés et de job dating.
C'est peut-être là qu'on peut préciser aux auditeurs que vous avez la reconnaissance de travailleur handicapé, ce qui explique que vous pouvez bénéficier de ce contrat alors que vous avez 28 ans.
Oui, c'est ça. C'est vraiment parce que j'ai une RQTH et que j'ai trouvé des difficultés à trouver un contrat de travail parce que, justement, je n'avais pas d'expérience professionnelle et disons qu'il y a certaines idées reçues par rapport à l'handicap. Du coup, j'ai fait des handicafés, des job dating, et parmi ces job dating, j'ai trouvé le groupement d'employeurs Elis, qui est un regroupement de plusieurs sociétés dans la région rennaise, qui recrute via le groupement Elis des personnes en contrat court pour des missions, on va dire, de courte durée. Par exemple, des inventaires, des éditions de documents comptables. Donc, j'ai fait un contrat d'immersion professionnelle chez eux d'une semaine en février et mars 2023. Et par rapport à ce que j'ai réalisé avec celle qui s'occupait de moi, Stéphanie
Ezik,
on a convenu que en ce qui me concernait, il me faudrait plutôt un contrat à temps partiel, soit une demi-journée ou alors une journée complète, mais décalée d'une journée de repos.
Mmh, ça vous a permis de comprendre le rythme qui vous convenait à vous pour travailler. Je précise juste, vous avez parlé de RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc vous avez intégré ce contrat d'engagement jeune à l'automne 2022. Il est toujours en cours. Pour dire ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes passé dans un autre dispositif, un peu en même temps, le parcours emploi compétences, le PEC. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes chez Pôle emploi?
Oui, je suis à l'agence Pôle emploi Rennes-Sud. Je suis au PAG, qui est un service administratif de Pôle emploi. Donc, en quelques lignes, quand un demandeur d'emploi dépose un courrier à Pôle emploi, je réceptionne le courrier, je vérifie le numéro d'identifiant du demandeur d'emploi, je le tamponne, je le scanne et l'envoie dans le dossier informatique du demandeur d'emploi. Et ensuite, je classe le dossier.
Ça prend combien d'heures par semaine, là, ce parcours que vous suivez en ce moment? Vous travaillez combien d'heures chaque semaine?
Je travaille 4 heures tous les matins, de 8h30 à 12h30. Et ce, depuis le 1er mai 2023 jusqu'au 31 janvier 2024.
Ça change quoi dans votre vie, là, d'être dans ce parcours d'insertion avec cet objectif qui est plus si éloigné que ça, d'avoir un emploi? Pour vous, c'est important?
Oui, c'est important parce que ça me permet d'avoir une vraie première expérience professionnelle, un premier aperçu du monde du travail. Et de plus, le fait de travailler à l'agence Pôle emploi Rennes-Sud, ça peut m'ouvrir des portes que je ne soupçonnais pas, parce que ça peut également m'ouvrir les portes pour des contrats ou des postes similaires à ce que je fais actuellement pour les autres agences Pôle emploi de Rennes ou même de la région rennaise.
L'immersion professionnelle, c'était un vrai besoin en fait dans son parcours, parce que moi, en tant que conseillère, j'avais besoin de savoir de quoi il était capable et s'il pouvait s'adapter à une activité professionnelle lambda en fait. Et du coup, les échanges que j'ai avec l'employeur ont été hyper importants, parce que ça nous a permis de savoir qu'un temps plein, c'était compliqué et qu'un parcours emploi compétences aurait été plus adapté en fait pour lui. Et c'est ce qui a fait qu'on a rebondi sur l'offre d'emploi qu'il y avait à Rennes-Sud. Donc ouais, tout ça, c'est hyper important, je pense.
Peut-être une question pour Corentin. Votre autisme, pour vous, justement, il a quel impact sur votre travail en termes de concentration? C'est plus resserré? Comment vous l'expliqueriez?
Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus resserré.
Alors, c'est plus, oui, le fait que tu aies un peu plus de difficulté à te concentrer sur du long terme. Donc, il ne faut pas qu'il soit non plus entouré de trop de monde, qu'il soit trop dans un travail de pression, etc. Donc, il faut que les collègues aussi s'adaptent et lui laissent plus de temps, des choses comme ça. Mais il se débrouille très, très bien. Moi, je suis ravie de son parcours. C'est quelqu'un de volontaire et surtout, il se donne les moyens. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui. De toutes les personnes qu'on reçoit, nous, et qui signent le contrat d'engagement jeune, il faut cette part de motivation et c'est hyper important. Et les choses ne se font pas toutes seules. Donc, Corentin fait partie de ces personnes qui se donnent les moyens et c'est très bien.
Jessica Tilly, donc vous êtes conseillère sur le dispositif du contrat d'engagement jeune chez Pôle emploi sur le secteur Rennes-Sud. On ne l'a pas dit, mais l'indemnisation de ce dispositif, alors c'est proche, comme on a pas mal d'auditeurs qui sont passés par là, proche d'un volontariat en service civique. On est avec une allocation de 528 €, en tout cas maximum, ça dépend de la situation du jeune.
C'est 528 € par mois, sous réserve effectivement de ses ressources et bien sûr sous condition de respecter les engagements qu'on met en place, puisque c'est ce qu'on fait lorsqu'on signe le contrat. On prend des engagements, donc à partir du moment où la personne respecte bien toutes les actions, qu'il va bien au rendez-vous, qu'il arrive à l'heure au rendez-vous, qu'il se rend bien chez les prestataires sur les actions qu'on a décidées ensemble, il peut bénéficier effectivement de cette allocation. Donc ça peut être moins, hein, tout dépend de ses ressources, mais ça peut aller, oui, effectivement, jusqu'à 528 € par mois.
Ça arrive souvent qu'il y ait des sanctions parce que le jeune ne respecte pas, on va dire, avec assiduité son engagement?
Oui, comme partout en fait. Hein. Alors ça arrive qu'il y ait des jeunes qui signent le contrat et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, ils abandonnent. Alors parfois c'est partir pour mieux revenir, hein. C'était juste pas le bon moment. Donc après, ils font leur petit chemin et puis ils reviennent. Des sanctions, oui, après, c'est pas la priorité non plus. En fait, ils sont en apprentissage aussi pour beaucoup. Donc y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas, qui n'ont pas les codes en fait du travail, donc venir au rendez-vous, arriver à l'heure, etc., c'est des nouvelles choses pour eux, donc ça fait partie aussi des étapes du parcours. Et du coup voilà, après on s'adapte, nous en tant que conseillers, hein, on s'adapte aussi à la personne, donc on voit bien comment faire pour arriver finalement
aux objectifs.
Aux objectifs, ouais.
Le contrat d'engagement jeune, il fête son premier anniversaire puisqu'il a été lancé au printemps 2022. Ce que vous me disiez avant de débuter l'échange, c'est que le bilan de votre côté, il est surtout, même uniquement positif. On parle de 11 559 entrées dans la région Bretagne au 31 décembre 2022, réparties entre Pôle emploi et les missions locales. Donc les objectifs chiffrés sont atteints et le retour à l'emploi, ça fonctionne ?
Ça fonctionne plutôt pas mal, effectivement. Alors moi, je n'ai pas les chiffres du coup jusqu'à aujourd'hui, je les ai uniquement sur l'année 2022. On a quand même 63%, donc plus de la moitié qui ont accédé à un emploi d'un mois ou plus dans les 9 mois qui ont suivi l'entrée, et 43% à un contrat de plus de 6 mois. Donc c'est quand même de très bons chiffres. Ça prouve aussi que, par rapport au nombre d'entrées qu'on a fait, que le besoin sur le territoire était là et que les objectifs sont atteints. Donc c'est plutôt très positif, ouais.
Est-ce qu'il y a des limites à lever, des points à améliorer ? Est-ce qu'il faut encore présenter justement ce dispositif à des jeunes qui peut-être n'en ont pas entendu parler ?
Oui, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait encore plus de communication sur ce dispositif-là, parce que c'est un réel bénéfice, un réel avantage aujourd'hui pour les jeunes. Moi qui suis née dans les années 80, c'est quelque chose que je n'avais pas moi à mon époque. Et pour autant, ça aurait été bénéfique, puisqu'aujourd'hui, on a des conseillers d'orientation, etc., dans les écoles, dans les lycées, qui n'ont pas forcément le temps et voilà, qui n'ont pas les outils pour accompagner sur, voilà, sur le marché du travail, par exemple. C'est un dispositif, on le met en place dès 16 ans, donc c'est important que le jeune sache que ça existe et qu'il n'hésite pas à venir vers nous, ouais, tout à fait.
On imagine que ce n'est pas parce que le bénéficiaire trouve un emploi après ce contrat d'engagement jeune que l'ensemble des difficultés qui pouvaient limiter l'accès à l'emploi sont levées. Cet accompagnement-là, ça se passe plutôt dans les missions locales après.
Alors ouais, c'est les gros freins périphériques, donc on en parlait tout à l'heure. Alors si c'est absence de permis de conduire, ça nous on peut proposer des solutions, mais c'est vrai que quand on est confronté à des personnes qui ont des soucis familiaux par exemple, ou des difficultés sociales, des choses comme ça, effectivement on renvoie plus vers la mission locale parce qu'ils sont plus outillés pour les accompagner. Après l'évolution c'est tout au long de la vie, donc on se retrouve aussi avec des jeunes qui ne vont pas avoir forcément de difficultés, de gros freins périphériques en arrivant, et pour autant ça peut changer aussi tout au long du parcours, donc on s'adapte, c'est pareil, on adapte les services qui sont proposés, ouais.
Je vous représente tous les deux, Jessica Tilly, donc vous êtes conseillère sur ce dispositif du contrat d'engagement jeune chez Pôle emploi dans le secteur Rennes-Sud, et Corentin Claes, vous êtes l'un des bénéficiaires de ce contrat d'engagement jeune qui est toujours en cours pour vous. Pour plus d'infos, il y a le site internet unjeuneunesolution.gouv.fr. Merci beaucoup.
Merci à
Merci.
Vous.
Merci.
Va, ne retiens pas tes ailes, ma chérie.
Mais tu en as de si belles, toi aussi.
Ne cherche pas à comprendre, moi je sais depuis longtemps qu'un jour se défait le tendre, que l'amour change de camp.
Mais tu t'es trompé de page, le tendre n'a pas changé. Il a pris qu'un peu de large, il a voulu voyager.
Va, déplie-les bien tes ailes, ma chérie.
Il faudrait que tu essayes toi aussi.
Que sais-tu donc de mes ailes, de qui me les a coupées, qui a piégé l'hirondelle pour la mettre au poulailler.
Moi la vie, tu peux me croire, je ne l'ai pas demandé.
C'était ma plus belle histoire, ne va pas me l'abîmer. Moi je t'ai lissé les ailes, ma chérie.
Mais je peux lisser les tiennes moi aussi.
Ça ne se fait pas si vite déjà, tu ne comprends plus. Tu as l'âge de la fuite, moi celui du déjà vu.
Mais tu restes à ras de terre,
celle où je t'ai fait marcher.
Mais pourquoi toujours te taire?
Il le faut pour t'écouter. Mais oui, j'ai toujours mes ailes, ma chérie. Mais tu as ouvert les tiennes sur moi. laisse-moi m'habituer.
Ne dis pas de choses folles, tu as toujours su voler.
Mais tu fais de la voltige,
tu pourras voler plus bas.
Mais si je prends le vertige,
je volerai avec toi.
Et nous garderons nos ailes, ma chérie.
Ma chérie par Anne Sylvestre sur Canal B, c'est un titre qu'on retrouve sur l'album Les pierres dans mon jardin qui est sorti il y a un petit moment en 1992. Vous me dites hein, quand vous en avez marre que je passe du Anne Sylvestre. En attendant, on peut redire que cette artiste française qui nous a quittés en 2020, eh bien, elle a sorti plus de 20 albums en 60 ans de carrière pour les jeunes et les moins jeunes oreilles. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B qui chaque jour se termine avec une recommandation de choses parfois à se mettre dans les oreilles, à lire ou bien à vivre, et là c'est le cas. Car la recommandation du jour, c'est d'aller découvrir le bus du Cœur des Femmes qui fait étape à Rennes jeudi 8 et vendredi 9 juin. Ce bus est en fait la plus grande opération itinérante de dépistage des maladies cardiovasculaires avec déjà 7 étapes avant Rennes. En tout, il y en a 15 de prévues. Les maladies cardiovasculaires, eh bien, c'est la première cause de mortalité chez les femmes en France. On parle d'infarctus, d'AVC ou encore de cardiopathie. Chaque jour, 200 personnes en meurent alors que 80% de ces décès pourraient être évités grâce à de la prévention. Rendez-vous sur l'esplanade Charles de Gaulle jeudi de 9h à 20h et vendredi cette fois de 9h à 16h pour un événement, on le dit, qui est organisé en partenariat notamment avec la ville de Rennes. Un dépistage cardiovasculaire et gynécologique gratuit sera proposé, plus particulièrement à destination de publics fragilisés. C'est sur un temps d'1h30 et il faut penser à s'inscrire. C'est peut-être le petit reproche qu'on peut adresser à cette initiative qui veut toucher des publics éloignés justement de la santé. Je vous donne la démarche à suivre pour s'inscrire. Ça se passe à l'hôtel de ville par téléphone au 02 23 62 10 10 ou alors en ligne sur le site trouve.com. T-R-O-O-V. Ce dépistage, c'est en fait surtout un point de départ à un suivi des patientes. Organisez-la avec l'aide de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et puis des professionnels de santé du territoire. Autour de ce bus du Cœur des Femmes, un village bien-être et santé sera déployé, lui en accès libre et gratuit pour toutes et tous. Il y sera question de nutrition, des actions du planning familial, d'initiation aux gestes de premier secours ou encore à la sophrologie. Pour plus d'infos, il y a le site agirpourlecoeurdesfemmes.com. C'est terminé, une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.